7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiech.
Bonjour les voisins et les voisines, ravis de vous retrouver pour la dernière fois de la semaine. Comme chaque vendredi, nous allons aborder un sujet éducation. Aujourd'hui, ce sont les enfants différents, notre sujet. D'abord, il y a le bonheur d'être parent et les étapes qui mènent à l'école, moments valorisés, anticipés, parfois avec bonheur, mais parfois ça coince, quelque chose ne va pas. L'écriture, le comportement et le verdict tombent, votre enfant est au choix. Dyslexique, précoce, souffre d'anxiété scolaire, la voie toute tracée se brouille alors, parfois momentanément, parfois pour de bon. Et la souffrance de l'enfant devient celle du parent, début d'un cercle infernal de culpabilité et d'impuissance, doublé du sentiment parfois d'être incompris, tant par la société que par le corps médical. Et ces troubles impacteront bien évidemment les apprentissages fondamentaux de l'enfant. Comment aider ces enfants pas comme les autres? Comment aider leurs éducateurs, parents, mais aussi enseignants et médecins, à l'accompagner dans une scolarité épanouissante? Et puis, au fond, une scolarité épanouie est-elle vraiment possible pour ces enfants ou bien peut-on simplement éviter le pire? Pour en parler, trois invités avec nous. Fatma Bouvet de la Maisonneuve, bonjour.
Bonjour, merci.
Médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, vous êtes l'auteur d'Enfants et parents en souffrance aux éditions Odile Jacob. Hervé-Jean Leniger, bonjour.
Bonjour.
Président de la Fédération des conseils des parents d'élèves d'Île-de-France, la FCPE, et Alexandre Ployer, formateur d'enseignants, plus précisément responsable des formations auprès d'enseignants spécialisés dans le handicap.
Responsable des formations qui forment des enseignants spécialisés dans le premier et le second degré pour l'Académie de Créteil.
Et il y a aussi vous, les voisins. Avez-vous été marqués par des troubles comme ceux décrits? Dyslexie, anxiété, précocité? Comment l'avez-vous vécu? Comment avez-vous été pris en charge par votre entourage, ou bien avez-vous des enfants qui vivent ces troubles? Comment gérez-vous? Comment le vivent-ils? Vous sentez-vous accompagné? Dites-nous, nous attendons vos appels au 33 1 84 22 71 71. Et je vous propose tout de suite un témoignage édifiant, celui de Sandrine. Sandrine est la maman de Thomas, 8 ans et demi, qui est en classe de CE2 dans une école primaire parisienne. Thomas est un enfant précoce. Sandrine raconte son parcours du combattant de mère au micro d'Alice Milo.
En deuxième année de maternelle, quand j'ai demandé à l'institutrice comment se passait l'école, tout allait bien, sauf qu'il pleurait au moment où il fallait faire des dessins. Alors, ça m'a un peu étonnée sur le moment, pour nous dire finalement, est-ce que vous voulez que la psychologue scolaire intervienne dans la classe? Elle nous a appelés en me disant, écoutez, oui, il y a un souci, il a effectivement un problème de motricité fine, qu'il fasse de la psychomotricité avec une psychomotricienne. Il voit qu'il n'y arrive pas, que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il souhaite, donc il décide de ne plus le faire. Et quand on le lui demande, alors qu'il voit que ses camarades, eux, sont beaucoup plus doués sur faire un dessin, etc., eh ben, ça l'insupporte. Pour lui, c'est une souffrance, donc il ne veut pas le faire et il le désinvestit totalement. Quand même, il y a certains signes qui me font penser que peut-être il serait précoce. Donc, je vais, sur les conseils d'une maman qui elle-même a deux enfants précoces, consulter ce qu'on appelle une psychopédagogue. Effectivement, elle me dit, votre fils est précoce, en tout cas en verbal, il est dans la zone de précocité. Par contre, à l'écrit, effectivement, il est juste à la limite. Donc, cette dysynchronie pose chez lui un problème. J'ai un dossier comme ça, oui. J'ai passé mon temps à ça. C'est-à-dire qu'on a fait des bilans sur tout et n'importe quoi pour, déterminer qu'en fait, il est juste précoce, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un handicap. C'est une intelligence qui est différente et qui ne s'adapte pas à la pédagogie telle qu'elle est enseignée en France. Par exemple, les tables de multiplication, il a énormément de mal parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Donc, lui, à chaque fois, il faut qu'il mette un sens sur quelque chose. Donc apprendre par cœur, c'est quelque chose qui est très difficile pour lui. Du coup, il prend du retard parce que très clairement, aujourd'hui, on est en CE2, il désinvestit totalement l'école de nouveau, il veut plus y aller, de nouveau, il y a un problème avec l'institutrice. Il y a une espèce d'incompréhension totale avec l'institutrice à qui je dis, écoutez, il faut favoriser l'oral parce qu'il a des soucis effectivement à l'écrit, il est suivi en psychomotricité, etc. Qui ne comprend pas ce que je lui dis. Par exemple, de faire moins d'exercices à l'écrit, de lui donner plus de temps pour les faire. Eh ben non, c'est pas possible, parce qu'on est dans un cadre formé et on vous explique que ce n'est pas possible. Alors ils vous disent, ils ont 28 élèves, etc. Mais quand même le choc. Le public ne veut pas de mon enfant. Quand la psychologue scolaire vous dit, il s'adapte ou pas, et s'il s'adapte pas, il faudra choisir une autre solution. Enfin voilà, on vous le dit carrément, quoi. L'école publique telle qu'elle est n'est pas faite pour votre gamin. La marche forcée, ou alors, il faut qu'il parte. j'ai demandé à la neurologue, mais vous pouvez pas expliquer quand même aux instituteurs ce qu'ils devraient faire? Elle me dit, oh ben là, surtout pas! Parce que, vous comprenez, sinon ça risque de les vexer. Alors là, voilà, les bras m'en tombent, et donc on se retrouve tout seul à essayer de faire des pansements, parce que ce sont des pansements pour son gamin, en espérant que, voilà, ça ira mieux. Alors, le neurologue me dit, il faut le mettre en privé, alors les privés, c'est généralement du privé hors contrat, donc il faut savoir quand même que, bien sûr, c'est hors contrat, donc ça veut dire entre 6 000 et 10 000 euros par an, quand même, hein, qui sont, entre guillemets, spécialisés pour les enfants précoces. Avec le papa de Thomas, on assiste à une réunion d'information. Ça colle exactement à Thomas, c'est-à-dire elle décrit les précoces exactement, avec des difficultés d'écriture, etc. Donc moi, j'avais déjà préparé mon dossier d'inscription, je remets ça à la directrice. Elle m'appelle pour me dire, écoutez, je crois que ça va pas être possible pour Thomas. Je dis, pardon ? À l'évidence, il a un problème d'écriture, donc il faut des adaptations, et ces adaptations, on peut pas les faire. Je dis, c'est une plaisanterie. Vous êtes une école où vous m'avez expliqué qu'il y a que 15 enfants par classe, vous avez des gens qui ne font que ça, et donc vous êtes en train de me dire que vous pouvez pas vous adapter pour pas grand chose, c'est-à-dire favoriser l'oral et éviter que tout se passe à la crise. C'est pas grand chose quand même. Eh ben non. Qu'est-ce que je fais, moi? Avec Thomas qui, pendant ce temps-là, rentre le soir épuisé de ses journées d'école où il emmagasine toute une colère et il éclate le soir en sanglots en me disant « Demain matin, je me lève pas et j'y vais pas ». Donc je suis allée voir une autre école, mais qui est en banlieue, spécialisée également pour les enfants précoces, et qui, là, veut bien effectivement prendre Thomas, mais voilà, c'est en banlieue, c'est très loin, ça engendre des difficultés matérielles qui sont vraiment importantes. On est un peu désespérés. Vous imaginez votre fils qui n'est pas malade, n'a pas de handicap, il se retrouve dans une situation aberrante, il est en souffrance. Vous croyez que c'est amusant de voir votre gamin en souffrance en permanence? Et en plus de ça, il faut quand même avoir les moyens de suivre, pour être très clair, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller faire de la psychomotricité non remboursée, de l'ergothérapie, de la graphothérapie. On n'a pas vraiment de solution. D'ailleurs, il y en a pas. En France, il y en a pas. Il suffit de passer la frontière. Vous allez en Belgique. Et ben, rien qu'en Belgique, déjà, c'est différent. Elles ont des formations. Ils savent les détecter. J'en suis à me dire que un jour ou l'autre, on passera peut-être en Belgique parce que la pédagogie est plus adaptée qu'en France. Enfin, c'est délirant quand même de se dire ça. On a l'impression d'être dans une situation inextricable.
Milliards de voisins, c'est sur RFI.
Merci à Alice Milo ainsi qu'à Thomas et à sa maman pour leur témoignage. Et puis n'hésitez pas, les voisins, à témoigner vous aussi au standard de 7 milliards, 33 1 84 22 71 71. Docteur Bouvet de la Maisonneuve, alors, ces troubles dysfonctionnels en question. Tout d'abord, ils ne sont pas faciles à appréhender parce que pas visibles. Ensuite, on a l'impression qu'ils sont innombrables. Il y a les troubles dysfonctionnels, mais pas que. Il y a aussi les troubles somatiques.
Oui, alors effectivement, un certain nombre de parents aujourd'hui, comme cette dame qui a dû faire tous les tests du monde, parlent de leurs enfants comme étant des 10, entre guillemets, parce qu'à partir du moment où l'un diagnostique la dyslexie, l'autre va diagnostiquer la dyspraxie, la dysorthographie, et du coup les diagnostics s'accumulent. Je voudrais aussi parler d'autres troubles, on en parle beaucoup aujourd'hui dans l'actualité, ce sont les conséquences du harcèlement moral, par exemple, que l'on peut rencontrer à l'école.
Mais alors ça, ce ne sont pas des troubles que l'enfant apporte
qui viennent de l'école, mais c'est que ce sur quoi je voudrais quand même dire l'essentiel, c'est que je voudrais m'adresser aux familles et leur dire qu'elles n'ont pas à se culpabiliser de ce qui arrive à leurs enfants, parce que les personnes que je vois, les familles que je reçois qui sont en errance et en désespoir, sont un petit peu comme cette dame que nous venons d'entendre, sont à la fois en souffrance parce que leur enfant souffre, mais aussi en souffrance parce qu'on les a responsabilisés du mal-être de leur enfant. Que ces familles sachent qu'il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles leur enfant ne se porte pas bien et qu'il y a également des solutions que l'on peut leur proposer, mais qui ne sont pas évidentes et qu'elles ne connaissent pas.
Alors ces solutions, nous les aborderons tout à l'heure, mais je voudrais que vous nous parliez de ces troubles. Comment les décrivez-vous ?
Alors vous avez un certain nombre de troubles qui sont des troubles de l'apprentissage, qui sont des troubles qui relèvent de l'anxiété scolaire, d'autres troubles qui sont les conséquences du harcèlement et d'autres troubles qui sont somatiques. On va passer des troubles du comportement alimentaire jusqu'à la consommation des produits, en arrivant jusqu'au diabète ou aux allergies alimentaires, etc., qui font que l'enfant se vit et est vécu par la collectivité scolaire et par ses parents comme différent. Et c'est là que, effectivement, enfants. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de santé à l'école pour pouvoir à la fois informer les enseignants sur ce dont souffre l'enfant, que ce soit un trouble passager ou un trouble chronique, et pour pouvoir prendre en charge et expliquer aux parents ce dont souffre l'enfant et comment est-ce que collectivement on peut s'organiser dans des espaces collaboratifs pour aider l'enfant et le parent à suivre une scolarité et à vivre normalement.
Hervé Jean Le Niger, comment les organisations de parents appréhendent ces troubles? Est-ce que d'ailleurs les organisations de parents appréhendent ces troubles?
Alors les organisations, la Fédération de conseils de parents d'élèves dont je suis le représentant ici, appréhendent effectivement l'ensemble des troubles. N'oublions pas qu'il y a effectivement les troubles invisibles, tous les dysfonctionnements, dyslexie, dyspraxie, mais il y a aussi tous les troubles moteurs, les troubles sensitifs, auditifs, visuels. Rappeler à nos auditeurs qu'il y a une loi, c'est quand même le point de départ de 2005, pour prendre en charge le handicap.
Et qu'il soit visible ou pas.
Qu'il soit visible ou invisible. Les enfants intellectuellement précoces, c'est un cas à part, effectivement, c'est particulièrement compliqué. Et l'exemple de ce reportage est assez illustratif, c'est vrai. On peut le dire que c'est un parcours du combattant pour les parents qui ont des enfants porteurs de handicap. Néanmoins, sans vouloir accréditer l'éducation nationale de tout, il y a des efforts considérables de faits, on pourra rentrer dans le détail après, des efforts considérables qui sont faits, mais les parents souvent ne sont pas informés de toute la palette de dispositifs qui est mis en place, en particulier à travers la maison départementale des personnes du handicap et le classement, la catégorie du handicap.
Alexandre Ployer, l'enseignant est le vis-à-vis éducatif du parent. Où en est le corps enseignant de cette prise de conscience?
Alors le corps enseignant est pris dans un paradoxe. Le paradoxe, c'est que, grosso modo, nous sommes en train de construire une école dite inclusive, qui a charge d'accueillir en son sein ceux que vous appelez ces élèves différents, eu égard à leur pathologie ou à leurs difficultés scolaires. Cependant, ces enseignants, qui tous sont susceptibles d'accueillir notamment des enfants handicapés dans leur classe...
Ça, c'est la lettre, mais...
C'est la lettre. Alors, c'est voire même l'idéologie.
Oui.
Si on regarde les choses de manière pragmatique, on se rend compte que les enseignants sont peu formés, en volume horaire, et peu nombreux sont les enseignants qui sont spécialisés. Donc finalement, les enseignants se retrouvent face à un devoir d'improvisation et d'une culture de l'inclusion à construire, et qui évidemment se construit très très lentement et avec beaucoup de difficultés.
Tout de suite, je vous propose d'accueillir un voisin béninois, et il s'appelle Boris. Allô?
Oui, bonjour Anastasie.
Bonjour Boris, alors votre expérience, vous souhaitez partager avec nous votre expérience d'enfant qui a été diagnostiqué surdoué.
Oui, exactement. Bon, pas si surdoué que ça, mais j'avais une très
pas
bonne
si
mémoire.
Pas si surdoué que ça.
Oui, bon, à l'école j'étais un jeune garçon normal, sans complexe, comme les autres. J'avais un goût certain pour la connaissance et la science. Mais j'aimais aussi être en avance sur moi-même. J'aimais anticiper, à telle enseigne que les cours, la science, les professeurs, tout ce qui a rapport à l'école traditionnelle me dégoûtait. C'était en quelque sorte ça. Ça m'ennuyait. Et il m'était arrivé plusieurs années de suite de ne même pas prendre des notes en salle. Oui. Ça veut dire, au premier trimestre, j'avais mes cahiers à jour. Mais au deuxième ou troisième trimestre, j'avais plus de cahiers. Donc, je prenais plus de notes, j'avais plus de livres. Et pourtant, j'étais premier de la salle.
Comment vous faisiez alors?
Ouais, j'ai une bonne mémoire jusqu'à présent. J'ai une très bonne mémoire auditive et visuelle. Ça m'arrive comme ça et je garde tout ce que je veux garder. Ce que je veux pas garder, j'élimine en fait. Donc c'est ce qui m'arrivait.
Et comment réagissaient vos enseignants?
Mais voilà, je m'attendais à ce qu'ils disent, à toi, tu n'as pas ta place ici, tu es surdoué, voilà, tu es ci, tu es ça, parce que c'était un exploit pour moi. Alors que c'était le contraire. Les professeurs ne m'encourageaient pas du tout. Et ils me punissaient parfois. Et quand je parle de punition, c'est la chicotte. Voilà. Même mes camarades n'étaient pas de mon côté, ils ne m'acceptaient pas, ils ne prenaient pas un extraterrestre.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Comment réagissaient-vous? Qu'est-ce qu'ils vous disaient concrètement, vos camarades?
Mais voilà, ils ne comprenaient pas. Avant que le prof me pose une question, je connaissais déjà la réponse. Et quand je parle, c'est comme si je n'étais pas dans leur monde. Et ils me dévisageaient d'une manière différente. Et c'était moi le petit poussé de la classe, quoi. Sans amis, sans personne. Et dans ma tête, c'était pas correct.
Le vilain petit canard. Et alors, comment vous avez évolué, du coup, maintenant, qu'est-ce que vous faites?
Maintenant, je suis toujours étudiant et en fin de formation. Mais j'ai poussé mes études normalement, je n'ai aucun problème. Mais quand j'y pense, je me dis que peut-être j'aurais perdu le goût de l'école ou que j'aurais eu des séquelles psychologiques jusqu'à présent.
Et vos parents, est-ce que vos parents savaient ce que vous traversiez?
Oui, mes parents, quand ça finissait avec les professeurs de l'école, tu revenais à la maison, il fallait que les parents aussi passent le même scénario, quoi. Ils te corrigent, ils te demandent pourquoi est-ce que tu ne recommandes pas tes cours. Ils ne comprenaient pas, en fait, parce qu'on ne peut pas tout expliquer aux parents, surtout qu'on est en Afrique. Donc c'était ça, et voilà, j'étais le seul dans ma bulle, c'était... En fait, ça.
Merci pour votre témoignage, Boris. Fatma Bouvet de la Maisonneuve.
Oui, j'ai beaucoup à dire sur l'histoire de Boris, qui est une histoire que beaucoup de parents me racontent, effectivement. Alors, il faut savoir, effectivement, au début, Boris, vous avez dit que vous n'étiez pas si surdoué que ça, mais pourquoi pas. Mais c'est parce que les gens s'imaginent que les enfants intellectuellement précoces sont un peu des savants qui peuvent, voilà,
déballer. Des bêtes de foire, un peu.
Absolument, déballer un dictionnaire, etc. Mais il faut savoir que les enfants intellectuellement précoces, d'après les chiffres qu'on a aujourd'hui, et je voudrais également dire que c'est une notion qui est très discutée, d'après les chiffres que l'on a aujourd'hui, nous avons un tiers d'enfants qui réussissent bien, d'autres qui réussissent moyennement, et l'autre tiers qui sont en échec scolaire. Et ce sont les pédagogues qui se sont beaucoup saisis de cette notion et qui préconisent un certain nombre de choses du type faire sauter de classe ou alors renforcer la matière que l'élève aime le plus pour pouvoir l'encourager justement et être positif dans ce comportement. En revanche, nous, psychiatres, ce que l'on voit lorsqu'ils sont adultes comme Boris, on voit les complications psychiatriques.
Et qu'est-ce que ça peut donner ?
Ça peut donner une très forte anxiété, ça peut donner des troubles caractériels, ça peut donner des consommations de produits. Les parents sont très fiers d'avoir un enfant dont
qui
on leur dit qu'il est intellectuellement précoce, mais au bout du compte, par la suite, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément en réussite scolaire et donc sont un peu en désarroi et ne savent pas quoi faire de ce potentiel intellectuel de cet enfant qui souffre néanmoins de ne pas être entendu également. Donc effectivement, je vois bien comment Boris a dû passer par cette période d'incompréhension et de désarroi.
Hervé Jean-Lunger.
Alors les enfants précoces, dits intellectuellement précoces, ils sont souvent totalement désadaptés socialement. Ils rencontrent de grands problèmes relationnels. Ça dépend de la catégorisation des enfants précoces, hein, entre les laminaires et les complexes. Mais n'entrons pas dans le détail. L'enfant précoce, souvent, le parent est confronté à une vraie difficulté pour le coup d'inclusion sociale aussi dans son rapport avec les autres élèves.
Donc c'est un peu ce que décrivait Boris.
Oui, c'est ça,
cette
tout à fait.
À
et ce que décrivait Boris est assez intéressant aussi dans le domaine de la stigmatisation. L'enfant différent, la différence, elle est toujours malheureusement pointée, mais l'enfant dans le milieu scolaire, souvent, sa différence est pointée. Je recevais, par exemple, cette semaine, un coup de fil d'une maman pour laquelle les enseignants, dans la marge des devoirs de sa gamine, mettaient un D qui voulait dire dyslexique. Et qu'est-ce que disaient les autres enfants ? Elle mettait un D partout. C'était pas un changement de l'évaluation scolaire et des notes. Hein. Qu'est-ce que disaient les autres gosses ? C'était pas dyslexique. Les autres gosses lui disaient « tu es une débile ».
Bien sûr.
Je veux dire, c'est très illustratif de ce qui se passe d'une manière générale, parce que là, Boris nous parlait des enfants intellectuellement précoces, mais il y a quand même beaucoup de difficultés pour d'autres enfants.
Avec la différence, l'enfant est au cœur d'un triple projet, celui de ses parents, celui de la société. Et le sien propre, que se passe-t-il quand la machine s'enraye, quand un grain de sable nommé trouble, dysfonctionnel ou pas, vient contrecarrer les plans de réussite scolaire? C'est notre sujet de discussion, les voisins aujourd'hui. Comment accompagner les enfants des voisins et les voisins en souffrance, ainsi que leurs parents? Trois invités pour en parler, le docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, Hervé Jean Le Niger de la FCPE et Alexandre Ployer qui est responsable de formation d'enseignants. Nous retrouvons donc ces trois invités et vous, les voisins, au 33 1 84 22 71 71 dans quelques minutes, 3 minutes après le flash.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Retour à 7 milliards de voisins, comment accompagner les enfants qui souffrent de troubles, qu'ils soient dysfonctionnels ou somatiques, accompagner ces enfants et leurs parents? Quelle solution pour que ces enfants, entièrement à part, puissent être considérés comme des apprenants à part entière, l'école étant le premier espace de sociabilisation? L'enjeu est de taille. Alexandre Ployer, l'accueil de l'enseignant face à cet enfant différent est capital. Et pourtant, ça n'est pas forcément simple. On l'a vu avec l'exemple que nous donnait Hervé-Jean Le Niger avant le flash info de cet enseignant qui notait dans la marge D pour dyslexique.
Moi, je voudrais faire un constat nuancé. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous les enseignants dans le même sac. Puis, alors, il est vrai, les enseignants ont du mal, peuvent avoir du mal avec des enfants qui ne sont pas totalement dans la norme, qu'ils soient précoces ou qu'ils soient dyslexiques ou qu'ils relèvent de pathologies plus lourdes. Je pense que l'histoire peut nous aider à comprendre que ces enseignants d'aujourd'hui sont les héritiers d'une tradition de ségrégation des élèves anormaux, ceux que jadis on appelait justement les élèves arriérés en 1909, qu'on a encore appelé les élèves inadaptés. Aujourd'hui, ces enseignants sont sommés de les inclure dans la classe. Donc, ce qui invite à complètement rénover le regard qu'ils portent.
Ils sont sommés de les inclure, mais sont-ils formés à les inclure?
Ils sont formés pour ce qui est de l'infime partie de ce qu'on appelle les enseignants spécialisés, qui sont extrêmement minoritaires.
Que vous formez?
Que moi et mes collègues formons, oui, pour ma partie à Créteil. Et dans le master MEF, qui forme les enseignants du premier et du second degré, il y a bien sûr des UE qui traitent des publics divers à l'école. Cependant, évidemment, en termes horaires, ça fait peu de choses. Et on peut toujours se poser la question de savoir ce que ces quelques heures permettent de travailler en termes de représentation autour du handicap ou de la différence.
Docteur Bouvet de la Maisonneuve, une fois que le diagnostic du trouble est posé, comment réagir? Comment un parent peut-il réagir si l'enseignant ou le médecin traitant semble ne pas comprendre?
Oui. Alors, ce dont je parle dans mon ouvrage, oui, c'est précisément de ce silence qu'ils reçoivent comme en termes de réponse des deux institutions essentielles qui prennent en charge nos enfants, puisque nous avons tous peur pour nos enfants pour deux choses, soit qu'ils soient malades, soit qu'ils manquent, qu'ils ratent leur avenir. Et là, nous avons affaire à deux corps de professionnels qui sont et les enseignants et les soignants qui ne répondent pas aux familles dont les enfants sont en souffrance.
Alors, qu'est-ce qu'on
fait ? Nous avons parlé des enseignants, mais je voudrais également parler des soignants, non pas pour les accabler, mais pour les appeler à un petit peu plus de dialogue avec les familles, à plus de pédagogie avec les familles, mais aussi avec les enseignants, car on voit très souvent des familles qui ont fait ce fameux parcours entre le psy, le kiné, on donne tout un parcours parfois extrêmement compliqué, le pédopsy, le pédiatre, etc., et qui n'ont jamais obtenu de réponse à leurs questions et qui sont complètement désespérés. Je pense qu'il faut aujourd'hui que ces familles sachent qu'elles ont des droits, qu'elles ont le droit de poser des questions légitimes, qu'elles peuvent avoir accès à des réponses légitimes et que si elles ne sont pas satisfaites, eh bien, elles changent d'interlocuteur.
On change de crèmerie, on change de médecin.
Absolument. Il faut se sentir le droit de ne pas être assujetti à ces deux métiers de savoir que sont les soignants et les enseignants qui, eux, parfois, également, ne répondent pas au désespoir et aux questions légitimes des parents. Je considère que quand on fait ces deux métiers, nous sommes dans l'humain, nous sommes dans la prédisposition au dialogue. Si nous n'en sommes pas capables, on change de métier. Parce que la souffrance des familles que je vois en consultation, il est vrai que ce sont des familles qui arrivent à un stade extrême de désorganisation, y compris d'ailleurs en ce qui concerne l'enfant qui va très bien. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'il y a un enfant qui va mal, on délaisse l'enfant qui va bien. Oui. Et lui-même, par la suite, subit ses séquelles. Et donc, lorsqu'on voit ce type de famille, on a envie de dire à ces deux institutions: travailler ensemble, apporter des réponses cohérentes à ces familles, à ces enfants, pour obtenir des réponses et pour que les choses aillent un petit peu mieux.
Alexandre Ployer.
Oui, je voudrais juste réagir à l'idée que vous soulevez, là, on change de métier quand on ne sait pas faire. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Ah.
Je pense que ces enseignants qui ne savent pas faire ou qui font mal du point de vue des familles font ce qu'ils peuvent la plupart du temps et qu'il revient à l'éducation nationale de mieux les accompagner. C'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup en peu de temps. Un changement culturel massif. Il y a 30 ans, on ne parlait pas ni d'intégration ni d'inclusion. Aujourd'hui, on leur demande de faire avec des enfants qu'ils ignoraient encore il y a très très peu de temps. Donc je pense qu'il faut aussi que nous fassions preuve les uns les autres de patience et d'accompagnement.
Je crois qu'il faut pas jeter la pierre aux enseignants. C'est vrai qu'ils sont mal formés, mais qu'il y a une nécessité très impérative de formation à l'inclusion, mais qu'il y a quand même des enseignants, malgré leur manque de formation, qui sont très soucieux du bien-être des enfants, des élèves en situation de handicap. Moi, je voudrais bien quand même dire que vous dites qu'il n'y a pas de réponse. C'est vrai qu'il y a une absence de dialogue, en tout cas souvent, entre les institutions, et les parents sont désarmés et démunis quand ils sont face à l'école, puisque c'est de l'école dont on parle. Mais il y a aussi une dimension de l'accompagnement des porteurs de handicap qu'il faut vraiment évoquer, hein. On parle des assistants de vie scolaire, on parle des aménagements de tout ce qui est fait dans le milieu scolaire. Il y a des réponses, il y a des dispositifs.
Mais sont-elles suffisantes?
Les dispositifs théoriquement existent, malheureusement.
Ah oui.
C'est comme la formation. Je suis là pour le dire en tant que parent et représentant de parents. Il y a effectivement un vrai souci de réponse en face de l'institution éducation nationale, incontestablement.
Donc, je voudrais quand même préciser que je n'ai pas à accuser les enseignants. Moi, je me suis chargée justement de parler des soignants. Et lorsque je dis on change de métier, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ce métier. J'ai suffisamment de patients enseignants qui ont choisi ce métier sans le connaître véritablement, et
ça,
qui vous
c'est,
disent...
C'est un cas de figure qu'on retrouve dans toutes les professions.
Dans tous les métiers. Et là, c'est un métier...
Cap sur le standard de
noble.
7 milliards de voisins, au 33 1 84 22 71 71, Véronique à Lomé voudrait intervenir. Bonjour Véronique.
Bonjour Anastasie. Oui, moi je suis enseignante et j'ai entendu le témoignage de Sandrine en début d'émission, qui m'a beaucoup touchée. Le rejet de son fils apparemment a été quand même important et je voulais apporter une note d'espoir dans tout ça, à savoir qu'effectivement dans l'éducation nationale, et j'en suis depuis plus de 30 ans, donc je connais un petit peu.
Vous connaissez de l'intérieur le système?
Oui, voilà, j'ai moi-même un enfant dyslexique, donc qui est grand maintenant, mais j'ai...
Quel âge a-t-il?
Vraiment, il vient d'avoir 25 ans, hein, vous voyez. Il s'en sort très bien dans la vie, d'ailleurs. Yeah. Mais j'ai connu un parcours difficile pour lui et pour moi en tant que maman, avec des collègues que je côtoyais à l'époque. Bon, donc je sais ce que ça peut être concrètement dans l'école, qu'une certaine forme de rejet, plus ou moins prononcée, et puis...
Et un rejet d'autant plus violent à recevoir qu'un enfant n'est pas du tout armé face à ça. Alors, quel conseil donneriez-vous aux parents qui nous écoutent et qui, contrairement à vous, ne connaissent pas le système de l'intérieur et qui se retrouvent face à des enseignants qui rejettent ou qui ne comprennent pas?
Je pense qu'il faut de toute façon rester dans le dialogue. Il faut aller peut-être ne pas voir que l'enseignant, mais aller voir le responsable, le directeur ou la directrice. Peut-être au pire des cas, mais effectivement changer d'école quand vraiment la situation est bloquée. Mais je voudrais dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants qui sont consciencieux, qui sont bienveillants.
Oui, ça c'est évident, mais là aujourd'hui nous parlons du moment où ça coince. On parle de ces moments où on se retrouve un peu démunis, où on ne sait pas. Évidemment que quand on est face à un enseignant qui comprend, il n'y a pas de problème et l'enfant peut être pris en charge de manière équilibrée. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est compliqué?
Quand c'est compliqué, il y a quelques fois où on n'a pas le choix que de changer d'école.
Voilà.
Hein. Ah oui, et puis bon, heureusement, en France, il y a de nombreuses structures et de nombreuses personnes compétentes autour de l'école pour aider, pour accompagner. Mais bon, vous voyez, dans les nouveaux textes qui sortent là, de l'éducation nationale, les nouveaux programmes, en tout cas c'est presque quasiment sorti pour l'école maternelle, on parle de bienveillance et de bienveillance et encore de bienveillance que les enseignants doivent manifester vis-à-vis de leurs élèves, ce qui paraît bien la moindre des choses, n'est-ce pas? Mais bon, effectivement, quelquefois, ça manque. Mais dans beaucoup de cas, même s'il n'y a encore pas assez peut-être de formation, parce que c'est difficile l'inclusion, effectivement, c'est difficile l'intégration des enfants différents dans des classes de 28, 29, 30 élèves. C'est pas facile. Mais avec la volonté, on arrive à faire des choses, on arrive à prendre en compte la différence. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est bel et bien prévu dans les textes officiels de l'éducation nationale d'accueillir, et ça fait très longtemps, hein, d'accueillir les enfants avec handicap, d'accueillir les enfants différents.
Oui, c'est ce que disait Alexandre Ployer.
Voilà. il y a quand même des stages qui sont faits régulièrement sur ces thèmes-là. Et voilà, donc, moi, je voulais dire à la personne, en tout cas, de ne pas se décourager. Et peut-être qu'elle est tombée sur un enseignant qui se trouve un petit peu démuni ou en difficulté. Et voilà, ça peut arriver.
Continuer de garder le courage et chercher. Continuer de chercher.
Je voulais, voilà.
Merci Véronique pour votre témoignage. Bonne journée à vous à Lomé, Hervé Jean-Luc.
Alors c'est vrai que c'est très compliqué.
Et ensuite on prendra Jeanne qui nous appelle de Nantes.
C'est vrai que c'est très compliqué quand on n'a pas de réponse et que surtout il n'y a pas de dialogue. Changer d'école n'est pas forcément une solution.
Envoyer son enfant face à un enseignant qui ne.
Non mais on a l'impression quand on entend tout ça qu'il n'y a pas de système centralisé de réponse. C'est vrai que c'est très compliqué. Nous on n'hésite pas parfois à préconiser aux parents de faire des recours au tribunal administratif parce que, par exemple, et c'est très fréquent, il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire qui accompagne l'enfant sur tout le temps scolaire et périscolaire. Néanmoins, il y a quand même des réponses adaptées. Il y a des enseignants référents dans les écoles, il y a des médecins scolaires, mais qui malheureusement, on le sait bien, à cause des baisses, sont réduits à peau de chagrin. Idem pour les infirmières, les assistantes sociales. Mais il y a quand même des réponses institutionnelles, et on peut saisir. Je veux pas faire du prosélytisme pour la FCPE qui défend l'école publique, je vous le rappelle.
Quand ça commence comme ça, c'est qu'on va le faire.
Mais je tiens à le faire, oui. Nous, parents FCPE, nous sommes présents dans les 100 départements du territoire français, et j'invite quand il y a des situations délicates, les parents, on a des correspondants à SEH, aide spécialisée et élèves handicapés partout dans les départements, à se tourner vers nous, et nous les appuyons dans les demandes. C'est vrai que c'est complexe, mais changer d'école n'est pas forcément la réponse adaptée, si par là vous voulez dire aller dans le privé par exemple pour les enfants intellectuellement précoces, je vous dis parce que ce n'est pas forcément une réponse. On a évoqué ça tout à l'heure.
On parlera des solutions tout à l'heure, Hervé Jean Luniger. Accueillons Jeanne qui nous appelle de Nantes. Jeanne, bonjour.
Bonjour Anastasie, bonjour les voisins et les voisines.
Vous êtes la bienvenue Jeanne, vous avez un fils de 6 ans.
J'ai un petit-fils de 6 ans qui va à l'école. Mais avant, quand il avait 4 ans, on ne comprenait rien de ce qu'il nous disait. Lui, il était frustré et nous aussi, nous en avions éprouvé de gros problèmes. Mais là maintenant, l'ayant confié à une orthophoniste, il arrive quand même à nous faire comprendre ce qu'il veut exprimer. Mais maintenant, je vous demande, qu'est-ce que nous, parents, nous pouvons faire à domicile
pour accompagner et améliorer...
L'accompagner, l'améliorer, oui, c'est ça.
Docteur Bouvet de la Maisonneuve, merci Jeanne pour votre confiance et pour votre question qui est importante.
Oui, alors je pense, oui, l'aide des parents. Alors il y a certains dispositifs de scolarisation à domicile, etc., dont vous parlerez certainement beaucoup mieux que moi. Je parle à mes collègues qui sont en face de moi. Je pense qu'il faut véritablement avoir confiance en votre enfant, l'entourer de beaucoup, beaucoup d'amour.
C'est véritablement important.
C'est-à-dire que je comprends, madame, que vous soyez angoissée puisque vous êtes en fusion totale avec votre enfant. Il est encore petit. Cette angoisse, il vous la transmet à vous et vous
la subissez.
Mais absolument. En revanche, il faut l'entourer de beaucoup d'amour, de beaucoup de confiance. Moi, ce que j'ai envie de dire, quand même, et pour prendre un petit peu plus le sujet dans sa globalité, c'est que tout ce que me disent les parents et tout ce que l'on voit, ça n'est pas une vue de l'esprit, ça existe réellement. La dernière enquête de l'UNICEF en France a montré que un tiers des enfants de 6 à 18 ans sont en souffrance psychique, que près de un adolescent sur deux entre 15 et 18 ans est en souffrance psychique et a pensé au moins une fois au suicide. Si les deux institutions qui sont responsables de nos enfants aujourd'hui n'arrivent pas à se mobiliser pour cette situation que je trouve, moi, pour ma part, alarmante en termes de conséquences sur les familles, bien je ne sais pas quelles sont les priorités aujourd'hui.
Concrètement, quel conseil pouvez-vous donner à Jeanne ? Vous avez parlé d'amour, de confiance.
Écoutez, on nous dit qu'il y a un certain nombre de dispositifs. Il faut l'informer de ces dispositifs
qui sont
présents.
Mais à la maison, elle posait la question.
Alors, vous avez des personnes qui ont pensé passer à l'école à la maison, hein. Et ça, il faut en avoir les moyens. Je suis désolée, tout le monde n'a pas les moyens de demander à des enseignants de venir à domicile. Il y a aussi la question de la socialisation. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur, lorsque vous décidez de scolariser votre enfant à la maison, qu'il soit véritablement isolé et que donc sa vie sociale soit réduite? Moi, personnellement, je l'accompagnerai, je lui demanderai de consulter les personnes dans lesquelles elle voit de la bienveillance. On retourne au mot de l'enseignante précédente qui est intervenue, mais c'est une situation de blocage, véritablement de blocage. Peut-être que vous auriez plus de conseils à donner. Vous voyez, nous sommes très souvent dans des situations de blocage telles que celle-ci.
Hervé Jean-Léniger, comment accompagner un enfant qui souffre de troubles quand on est le parent?
Quand on est le parent, c'est parfois effectivement très très compliqué de réagir.
C'est bien ça le souci.
Non, c'est le souci, mais il y a des spécialistes qui sont pas forcément atteignables et qui sont pas forcément dans le dialogue, qui sont pas forcément formés et qui ont une nécessité de formation, je crois qu'on l'a dit. Moi, je voudrais quand même revenir sur l'élément l'école. Il y a une note de février 2015.
Alors ça, vous reviendrez dessus après. Si, bien sûr que si. Vous en parlerez autant que vous voudrez après. Là, je voudrais qu'on réponde à cette voisine qui vous pose un problème concret, Alexandre Ployer.
Ouais.
Est-ce qu'il faut faire des exercices, lui faire écouter plus de musique, plus de sport?
Je peux absolument pas répondre de manière précise pour un cas clinique que je ne connais absolument pas, sauf en avoir tendu 30 secondes. Ce que je peux répondre, c'est ce qui se passe ordinairement quand les familles constatent des dysfonctionnements d'ordre cognitif ou dans les apprentissages pour leurs enfants.
Alors,
ce que la loi 2005 prévoit, c'est d'instruire un dossier à la maison départementale des personnes handicapées. Et une fois que ce dossier est instruit, alors c'est une démarche qui coûte, hein, puisque tout de suite l'enfant est affublé du mot d'handicap, ce qui est quand même un stigmate.
C'est pas
simple, évidemment, ça le met
donc
à côté.
Donc c'est une décision à prendre. Donc,
il y a un dossier à instruire, il faut voir un médecin, constituer un dossier. La MDPH va traiter ce dossier avec lenteur, mais elle finira par le faire et mettra en regard des difficultés un certain nombre de dispositifs. Donc le CESAD, par exemple, en effet, offre
le
des
CESAD.
Soins. Donc c'est un service de soins à domicile qui peuvent être pédagogiques ou de l'ordre du soin et qui accompagne un certain nombre de difficultés.
Voilà, et qui peut orienter vers les spécialités dont vous parliez.
Oui. Hein, il est à l'articulation de la difficulté de l'élève et de son inclusion au collège ou à l'école.
La maison départementale des personnes handicapées va proposer sur consultation des dossiers un projet personnel de scolarisation, un PPS. Et qui accompagne tous les enfants porteurs de handicap, les 10, les troubles moteurs, parce qu'on n'en parle pas, les troubles auditifs, les troubles visuels, tous les troubles cognitifs, les troubles de l'hyperattention. Donc tout ça est répertorié et analysé par la maison départementale personnes et handicap, qui va compenser pour l'élève sur le plan de la scolarité par un projet personnel de scolarisation, personnalisé de scolarisation. Donc il faut quand même le dire.
Hein, oui, mais personne ne lui a dit à cette dame.
Même si on n'a pas les réponses en face, il faut quand même dire qu'il y a des plans établis, que effectivement on n'a pas forcément la réponse immédiate et adaptée.
Mais il faut chercher.
Il faut s'appuyer sur les professionnels et les fédérations de parents.
Voilà, Jeanne, merci beaucoup pour votre confiance et puis bon courage à vous, parce qu'effectivement la route s'annonce pas simple et vraisemblablement la solution n'arrivera pas tout de suite. Mais en tout cas, si on ne la cherche pas, on ne la trouvera pas. Belle journée à vous à Nantes, les paradis de l'enfance, pas pour tous, les troubles aujourd'hui en question, dysfonctionnels ou somatiques, dans 7 milliards de voisins. Mais tout de suite, c'est la musique de Rich Kwan et son complice Young Thug. Ça s'appelle My Homie.
Get it. Stay down in the nitty gritty that came up. My homie. I got a lot of money and a lot of fame, but never changed up. My homie. She wanna fuck Kwan, she wanna fuck Thug, she might as well be one of them.
My homie.
I don't trust girls, I don't love girls, I only love
my homie.
Play with my homie. I'ma let this chopper dance for my homie. 100 Zans, I'ma stone him. 100 bands and it's on me. Every time a nigga do it, I swear I need a cameraman for these moments. I'ma Mac like Boney. I'll pull up if you want it. Can't talk like Charlie Sheen when it come to Thugger Rich Homie. Chop a bullet if it need me. If a bitch ain't got no clout, you know that's truancy. Hey, I don't want them panties off unless it's done by me. Rick Ross, you know it cost to be a ball like me. Boy.
So many crosses in my neck, they think I'm pretending sick. Gangsters, they pretend to be. Thug smoking sour weed, I'm like, lemon, please.
Stay down in the nitty gritty, then came up.
My homie.
I got a lot of money and a lot of fame, but never changed up.
My homie.
She wanna fuck corn, she wanna fuck thorn, she might as well be one
my
of the.
My homie.
I don't trust girls, I don't love girls, I don't love.
My homie.
She got butts low.
My homie.
She got show love.
My homie.
We're trying to get down.
My homie.
Sitting on all my old hoes who ain't want me. I made a lot of money, but never switched up on my homies.
No.
But I done switched girls with my homies. X Snart, no. He knows it. I done made a whole lot of money on my homies. I done seen a whole lot of homies turn phony. I don't trust you, but I trust my homies. I'ma keep it real with no cut on it. That Porsche truck, my homie. That lean plug, my homie. Never go to sleep while on it. Shot, shot to my homie. My homie told me we'd be real for help. From the bottom with my homies. We gon' get this shit together.
That money.
If I fall down, I'ma get back up.
With who?
With my homie.
If I lose a little bit, get it right back up.
Get it right back.
With my homie.
My homie Rich Kwan and Young Thug dans 7 milliards de voisins. Quelques minutes encore pour aborder une question épineuse, cruciale, douloureuse très souvent pour les familles. La question des enfants différents, de ces enfants qui souffrent de troubles qui ne sont pas visibles et qui sont pourtant réels. Avant que de vous poser à chacun de mes invités la question des solutions concrètes qui s'offrent aux parents qui sont dans ces difficultés, est-ce que on peut devenir un adulte accompli, épanoui après avoir traversé, après avoir commencé de cette manière?
Fatma, oui, c'est une très très bonne question et ça peut,
merci.
C'est une question qui donne de l'espoir.
C'est bien
parce
quand
que,
même de terminer
parce que, oui,
sur
parce
cette
que effectivement tous ces enfants là ne finissent pas à la rue comme on le leur dit souvent. Tu es tellement nul que tu vas finir sur les ponts, etc. Non, bien sûr, il y a un moment où il y a une prise de conscience. Il y a le fait d'être bien entouré, d'être bien compris. Effectivement, le milieu social aussi et le milieu économique fait un impact énorme sur l'avenir de ces enfants-là.
Hervé Jean, le Niger,
ils peuvent réussir,
c'est quand même très...
effectivement.
Très clivé. Selon que les parents aient des moyens ou pas, ils peuvent ou pas accompagner plus ou moins efficacement les enfants.
C'est partiellement vrai. Moi, je voudrais revenir sur une étude, la lettre d'information de février 2015 de la direction d'évaluation de la prospective et de la performance. Qui
ouf.
Est une grande, oui, ouf, comme vous dites, Anastasia. C'est le, donc une grande direction centrale du ministère de l'Éducation nationale,
oui,
qui dit, en effet, les parents appartiennent plus souvent à une catégorie sociale défavorisée d'inactifs et d'ouvriers que de cadres ou de professions intermédiaires, quelle que soit la nature du trouble de leurs enfants. Donc la question, elle est à double entrée. Vous êtes en train de me dire que quand on est moins favorisé socialement, on a moins de moyens et de solutions pour venir en aide aux enfants, certes,
oui,
mais le constat fait par l'Éducation nationale, c'est que la majorité, une grande partie des enfants qui ont des troubles, qui sont porteurs de handicap, appartiennent à des populations sociales fragilisées. C'est aussi un élément à prendre en compte.
Oui.
Je voudrais aussi quand même avoir une note optimiste,
oui,
hein, c'est que dans la même étude donc de la DEP, récente, on nous dit quand même que 3/4 des parents déclarent que leur enfant est scolarisé, je parle des enfants porteurs de handicap, hein, 3/4 des parents déclarent que leur enfant est scolarisé dans l'établissement qu'ils souhaitent, pour revenir sur ce qu'on a dit précédemment. Mais malgré tout, la minorité de parents qui sont mécontents est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est dans la population ordinaire. Donc c'est vrai qu'il y a des réponses qui ne sont pas apportées par l'institution, hein, Éducation nationale, et qu'il faut vraiment aider les parents qui rencontrent qui sont dans un véritable parcours de combattant. J'encourage encore une fois à les parents à venir vers nous, vers la Fédération des conseils des parents d'élèves, parce que nous pouvons les appuyer dans leur démarche.
Et les accompagner.
Nous siégeons
Alexandre
dans les
Ployer.
Maisons départementales des personnes de handicap pour l'examen des dossiers. Nous siégeons.
C'est dit, c'est entendu, Alexandre Ployer.
Oui, moi je voudrais juste revenir sur l'idée que vous avez avancée, à savoir qu'il faudrait que les institutions sachent mieux se parler et mieux parler aux parents. Et l'un des
Est-ce
actes...
que ça n'est pas fondamental?
Mais si, l'un des actes de formation essentiels que l'on fait en direction des enseignants spécialisés, c'est de les faire travailler sur les dimensions du partenariat et de savoir parler avec des professionnels
mais
du
soin.
Mais nous
sommes en 2015, comment se fait-il que ce soit en 2015 qu'on découvre qu'il faut
Je pense qu'il s'agit de volonté politique réelle. Je pense qu'il faut que la jeunesse soit réellement une priorité. L'enfance et la jeunesse soient une réelle priorité politique dans ce pays. On parlait des différentes solutions. Il y a des pays aujourd'hui où ces fameux enfants à besoin, élèves à besoin éducatif particulier sont véritablement pris en compte.
Vous pensez
et
à quel pays?
Avec une, mais non, évidemment, ce sont toujours les mêmes, hein, les pays
les bons élèves,
les pays scandinaves, évidemment. Mais ça n'est pas une question de nombre d'élèves en classe. Je pense que c'est une question de mentalité. Je pense, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il faut véritablement réfléchir sur une école inclusive. Une démocratie ne peut pas se réfléchir sans prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant d'abord. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous négligeons des faits. Nous avons des études qui s'accumulent. Nous avons des parents qui se plaignent. Ils sont certes une minorité. Dieu merci, ils sont une minorité. Il n'empêche qu'en termes de coûts et en termes de souffrance psychique, c'est un sujet qui est très préoccupant sur le plan politique et social.
C'était votre mot de la fin, Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Merci. Je rappelle que votre livre à mettre entre toutes les mains, qui est vraiment une somme de réflexion, d'enquête, s'appelle « Enfants et parents en souffrance, dyslexie, anxiété scolaire, maladie somatique » aux éditions Odile Jacob. Hervé Jean Le Niger, vous avez quelques
secondes. Juste un élément que nous n'avons pas abordé
en dehors des
troubles invisibles, en termes d'accessibilité des enfants porteurs de handicap, en particulier des troubles moteurs, on est très très en retard. La loi de 2005 devait prendre effet et on devait avoir de grandes avancées en 2015. La Conférence nationale de handicap à l'Élysée a prouvé que nous n'avions malheureusement pas fait grand-chose. Et on parle d'accessibilité motrice, mais sans visuelle, auditive. Hein, on ne parle pas que motrice.
Merci beaucoup Hervé-Jean Le Niger. Merci également Alexandre Ployer. Merci les voisins pour votre attention et pour vos témoignages. Merci également à l'équipe 7 milliards. Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Jonas Malès-Solart et Eleonore Krenik et Victor Hull. J'ai passé, comme à chaque fois, de très beaux moments en votre compagnie. Lundi, vous retrouverez Emmanuelle Bastide et vous parlerez avec elle de la jalousie en amour, normale ou toxique, tout un programme. Belle fin de semaine à l'écoute de RFI.